Radio G 101.5 FM.
Secondes, c'est l'heure de retrouver votre casse de cèpe favorite pour prendre plein de neuvième art dans les oreilles. On se retrouve tout de suite après le générique.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Il est 19h01 et c'est le moment que vous attendez tous, le moment de vous régaler les oreilles par le truchement des ondes radiophoniques avec les plus beaux mangas, comics et BD franco-belges. C'est bien entendu l'heure de la casse de Seb sur le 101.5 de Radio G. Ce soir, encore une émission en petit comité puisque je suis avec mon cher ami Anthony. Ça va bien ?
Bonsoir.
Ah là là, ça commence bien.
Oui, je suis de bonne humeur, profites-en.
Eh ben écoute, chers amis auditeurs, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous en avez profité pour avoir de saines lectures. Ça a été un peu notre cas et c'est pour ça qu'on va vous parler ce soir de pas mal de choses. Alors moi, j'ai pas eu le temps de lire tout ce dont je vais parler, mais je vais essayer quand même de vous en parler en bien, puisque je ne parle que de choses que j'ai bien aimées. D'accord ?
Entre toi qui entame pas mal de choses et moi qui ne finis qu'une seule chose, on va aller loin.
On va aller très loin. Allez, t'avais une petite news très rapidement.
Oui, très rapidement. C'était pour vous signaler, chers amis auditeurs, que Davy Mourier est en dédicace ce 7 mars à Angers, à la FNAC. Davy Mourier, qui est l'auteur de La Petite Mort.
D'accord.
Et de Alain au Pays des Merveilles, qui sont ses deux dernières BD en date.
Ben c'est pas mal ça.
Est-ce que je lâche peut-être un petit mot sur les BD pour lesquels il fait le déplacement?
Il sera à quelle date, tu as dit?
Le 7 mars.
Eh ben écoute, tu peux en parler rapidement, oui.
Donc ce samedi 7 mars de 2020 à 14h, dans notre FNAC du centre-ville, Davy Mourier sera là pour dédicacer vos exemplaires de Alain au Pays des Merveilles, qui raconte l'histoire en fait d'un homme, Alain, qui dont c'est le premier jour de travail au ministère de la censure. En se perdant dans les dédales des couloirs, il découvre un passage qui l'amène à Imagiland, le pays des merveilles et de la création. Sauf que tout n'y est pas si merveilleux. Les habitants, les paysages, les bulles de dialogue sont en train de se faire effacer. L'imagination disparaît. Alain va devoir prendre les armes avec ton aide.
Et c'est un livre interactif ?
C'est effectivement un livre interactif, puisque du coup il sera demandé au lecteur de dessiner en fait certaines parties de la BD. Des armes pour les personnages, des bulles de dialogue. Le lecteur en fait fait partie intégrante de l'histoire et de la création de l'histoire.
Je me permettrai pas de juger, mais c'est un peu une technique de feignant en fait.
Non, parce que c'est un petit peu comme un livre dont vous êtes le héros, mais qui est encore plus personnel pour le coup.
Ah ouais.
Donc il enjoint les personnes qui ont aimé l'expérience, en tout cas, à envoyer leur croquis, leur dessin sur son adresse Instagram, je crois. Et il viendra également dédicacer l'exemplaire du tome 4 de La Petite Mort. La Petite Mort qui file le parfait amour avec Maman Mort. Certes, sont âgés, mais ils sont enfin accompli le rêve de La Petite Mort, devenir fleuriste. Mais est-ce que la vie est belle pour autant ?
Eh ben, peut-être pas.
Donc c'est la suite des trépidantes aventures de La Petite Mort et du jeu de société qui y est associé.
Ça c'est classe. C'est-à-dire que La Petite Mort est aussi déclinée en version épisodique à regarder. Oui. Et je crois que c'est disponible sur YouTube.
Oui, c'est disponible sur YouTube, tout à fait. Oui. Donc voilà, donc n'hésitez pas à retenir cette date, c'est ce 7 mars, j'en veux pour janvier moi, le 7 mars fini, à 14h.
Merci Anthony. Moi je vais enchaîner avec une dédicace qui aura lieu à la librairie au Repère des Héros avec le nouvel album de Matou publié aux éditions Delcourt, Peur Bleue. La séance de dédicace aura lieu le 6 mars à partir de 16h. Les dédicaces se feront exclusivement sur la nouveauté de Matou. La dédicace se fera bien entendu sur réservation. Donc n'hésitez pas à y aller rapidement parce que souvent ça se remplit très très vite. Est-ce que je vous fais un pitch, enfin Matou étant une artiste angevine l'album se concentre sur les différentes peurs, peur de l'avion, des insectes ou de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir dire non, du jugement des autres. Bref, toutes les angoisses qui sont un petit peu la thématique centrale de cet album dont nous aurons l'occasion de reparler puisque on pourra le commenter sans doute la semaine prochaine. Je vous souhaite de bonnes dédicaces pour ceux qui iront, que ce soit à l'une ou l'autre des deux séances. On va attaquer le gros du sujet. Non, je ne parle pas de toi. Je suis méchant ce soir. Anthony, il est complètement blasé en fait.
C'est quand même la troisième vanne que tu m'envoies dans le pif. Je vais finir par répondre.
C'est la première dont les auditeurs entendent.
Forcément.
Je vais prendre un petit peu plus dans le détail un livre qu'on a reçu un petit moment, qu'on avait déjà abordé. On avait l'impression en fait d'en avoir fait le tour, sauf qu'il est un petit peu plus complet que ça. Et je voudrais vous reparler, qui suis un... je sais pas comment on le traduit en français, un bookworm.
Ouais,
un ver de livre,
un livre-vore,
un gros nerd en fait. je vais vous reparler de la petite faiseuse de livres, en fait, un outre-lecteur. C'est pas mal ça comme mot.
Oui.
Un autre mangeur de livres, enfin bref. La petite faiseuse de livres publiée aux éditions Ototo, c'est un scénario de Miya Kazuki. C'est un dessin de Suzuka et ça a été créé par Yushi Ina en version roman. C'est un light novel en fait à la base et c'est vraiment très très intéressant. De quoi ça parle? En fait, ça parle d'une jeune fille qui est étudiante et qui, lors d'un tremblement de terre, donc on peut imaginer que ça se déroule au Japon, même si c'est pas mentionné en tant que tel, va se faire oxyre par une chute de bibliothèque. Avouez qu'il y a quand même un peu plus classe comme mort. Et elle se réveille dans un monde. Alors on pourrait croire que c'est un isekai classique où un personnage de notre monde se retrouve dans un autre monde avec les connaissances de notre monde. Mais c'est pas vraiment ça, puisque cette jeune femme se réveille dans le corps de Mine, qui est une jeune fille qui doit avoir 6 ans à tout casser.
Oh oui.
Et qui. Parce que tu l'as lu aussi, hein, Anthony. Oui. Et qui, elle a les souvenirs en fait de cette jeune fille. Donc elle ne remplace pas un personnage existant, elle s'intègre dans la vie exacte de ce personnage.
Je l'ai peut-être pas tout à fait compris comme ça. En tout cas, au moment où elle se réveille, elle a l'air en fait, il y a plein de souvenirs qui lui popent dans la tête, comme si du coup la personne qu'elle remplaçait était partie.
Peut-être vu qu'elle est
très
partie.
Fiévreuse, peut-être que voilà, pas à cause de la fièvre, mais en fait, elle gagne tout d'un coup tous les souvenirs en fait de cette petite Maïne.
Elle n'a pas cette découverte en fait du monde. Alors un petit peu quand même, puisque du haut de ses 6 ans, elle est persuadée de savoir faire plein de choses, puisque c'était une jeune adulte dans son monde d'origine. Et elle va commencer à essayer de discuter avec les autres personnes qui la prennent pour une petite fille. Hein, attention, faut pas, ça reste un bébé hein, quasiment. Et elle n'a qu'une seule passion, en fait, c'est les livres. Alors, du coup, comme tu le disais il y a deux secondes, quand elle se réveille, elle sort d'une grande fièvre. Elle était alitée, la petite Maine était alitée. Et elle se dit qu'elle peut endurer la situation à partir du moment où on lui fournit un livre. Et à partir du moment où elle parle de livre, sa grande sœur qui débarque à ce moment-là ne comprend pas le mot livre. Pour elle, elle a prononcé un truc, mais on ne sait pas ce que c'est. Et il y a plusieurs, tout ce qui est lié au langage, à l'alphabet, à la grammaire, sont des mots qui ne sont pas compris en fait par les autres personnes. Et Maine va très vite se rendre compte que les livres sont quasi inexistants dans cet univers. Alors pourquoi je dis quasi inexistants? Parce que il y a quand même certains livres, l'accès au papier et à la lecture est un don privilégié en fait. Les livres sont extrêmement chers. Le papier ne sert qu'à rédiger des missives très précises dans des moments très précis. Et le langage, l'écriture est quelque chose que seules quelques personnes ont accès. Et Maine, elle a un gros souci avec ça, parce qu'elle, elle veut absolument lire.
Tu peux dire une obsession.
C'est une obsession, elle est, c'est une fada des bouquins, une bookworm, un petit peu comme moi, sauf qu'elle est plus petite. Et elle va se mettre en tête de réaliser du papier. Donc elle prend dans ses connaissances qui ne sont pas un petit peu on pourrait faire le comparatif avec Dr Stone où le mec il est hyper intelligent, il sait tout. Elle a des bases en fait. Elle sait que pour faire du papier il faut écraser des feuilles de papyrus, mais alors le papyrus, est-ce que ça existe dans cet univers, quel est le procédé exact, elle l'ignore complètement. Elle, du coup, elle va commencer à expérimenter pour pouvoir reconstituer du papier et pouvoir s'adonner à sa passion, l'écriture, pour pouvoir ensuite relire ces différents éléments. Et du coup, on a tout ce cheminement de ce personnage qui va découvrir un monde où l'illettrisme est quand même hyper important, où l'accès aux livres est quelque chose de très rare, puisque il n'y a pas d'imprimerie d'inventer. Et elle va se mettre en tête cette façon de faire, cette envie de créer des livres et peut-être de révolutionner un petit peu cet univers. Alors il n'y a pas que les livres en fait qu'elle va révolutionner, par exemple les cheveux sales, et du coup elle va se créer une sorte de shampoing qui va répandre auprès de sa famille et qui est plutôt rigolo. Il y a des petites choses qu'elle sait faire comme ça, mais c'est vraiment super sympa. Les dessins en plus sont très très mignons. On a une... comment dire, un côté un petit peu sale, puisque du coup elle est dans une espèce de famille on va dire pauvre, ou au moins un peu démunie, et on a cette espèce de saleté permanente, on a ce côté médiéval qui est plutôt bien rendu, et c'est vraiment très très sympathique, c'est vraiment très beau, et moi j'aime beaucoup, on s'accroche hyper bien au personnage. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé.
Moi ce que j'ai aimé en fait, c'est que le dessin pour la petite fille, justement pour Maïn, est très communicatif. On comprend très vite en fait quelle direction ça prend, ce qu'elle pense. En fait, on est vraiment immergé avec elle. On redécouvre quelque part un monde médiéval, et du coup des notions d'hygiène par exemple dont parle le début du tome, etc. Donc on pense bien que oui, elle va changer tout ça, améliorer la situation, et tout en, à mon avis, passant pour une uluberlu locale peut-être.
Ouais, mais c'est ça marche très très bien. Moi, c'est ce que j'ai vraiment aimé en fait. Voilà, hein, je sais pas quoi dire de plus, si ce n'est que lisez-le. Hein, on parle de livres, on lit un livre sur les livres, conseillé par des gens qui parlent de livres. Enfin, ça peut être que bien, n'est-ce pas ?
N'est-ce pas ?
Il est 19h12, on va se faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après. Je vous ai choisi Maël avec Toutes les machines ont un cœur. On se retrouve juste après.
qui bat comme je me bats. Maman, si le monde est mon mobile, mon cœur pour le moment est comme le monde, maman. Et le monde est fragile.
Radio G 101.5 FM.
De retour sur le 101.5 de Radio G. Vous êtes toujours à l'écoute de La Case de Seb, la meilleure émission du lundi de 19h à 20h qui parle de bande dessinée, c'est aussi la seule à ma connaissance sur le 101.5 de Radio G. Sinon on aura des collègues dans les bureaux. Voilà quoi.
T'avais pas Bande Geek Mafia qui racontait un petit peu des choses?
Oui, mais ils sont pas le lundi de 19h à 20h pour parler de BD. Donc c'est nous qu'on est les meilleurs. Voilà. C'est une démonstration mathématique que vous pourrez faire quand vous voulez, vous débrouiller. Bref. Alors, on va continuer de parler de bande dessinée. Hein. Pourquoi pas, hein?
Bah, maintenant qu'on est lancé.
Oui, maintenant, une fois qu'on est lancé, le rythme est pris. Je vais vous parler d'un bouquin sur lequel je suis tombé aux éditions Sarbacane, qui s'appelle Crépuscule Velvet de Vit Moretta, qui est une autrice d'origine italienne. C'est un bouquin, je préviens, c'est un petit peu barré. On est sur un style graphique, je ne sais pas comment le présenter, qui est très lâché, en fait. On n'est pas du tout dans le trait ultra précis, mais c'est il y a des bonhommes un peu chewing-gum, comme dirait Tony.
Oui, c'est ça, avec des articulations qui ne sont pas forcément très très marquées. C'est après, ça. La couleur, elle est assez chatoyante.
On est sur
un dessin plutôt, on va dire, efficace.
C'est plutôt efficace, c'est plutôt fun. Et puis, ça parle d'adolescents. Et le fait d'avoir ces personnages qui sont un petit peu... chewing-gum, ça marche bien en fait. Là, tu vois, sur la page principale, on a trois personnages en fait qui commencent à avancer. Et il y en a un qui est un peu les épaules descendues. On a l'impression que le bassin est un peu trop haut. Enfin, voilà, ça marche bien. On a vraiment l'impression d'avoir des adolescents désarticulés. Enfin, voilà quoi.
Ouais, pour l'asthme, c'est le. Souvenez-vous de la motricité de vos 18 ans.
Ah mais c'était très très moteur. L'histoire, c'est celle de trois jeunes gens qui vont se rendre à une soirée un petit peu VIP, puisque c'est Liam, l'un d'entre eux, qui a gagné lors d'un concours en fait le droit de rencontrer la jeune starlette Velvet à cette soirée, à cet after en fait un peu VIP se déroule dans un bar qui s'appelle le Sea Breeze, qui est un bar perdu au milieu d'une forêt. Jusqu'ici tout va bien, c'est la soirée idyllique, les jeunes, alors lui il est un petit peu fleur bleue, il est venu avec une fleur pour la jolie Velvette, et puis ses deux potes ils sont juste venus pour s'enjailler autant que possible et ne pas repartir seul de cette soirée. Mais rien ne va se passer comme prévu, puisque les trois lascars vont se retrouver très très vite séparés dans cette soirée où la musique semble couler à flot. Liam va rencontrer la jeune Velvette et se perdre dans la forêt avant que la demoiselle ne commence à partir dans une espèce de trip psychédélique où elle finit par courir à moitié à poil dans la forêt. Lui étant assez sérieux et posé pour continuer à la suivre, mais sans vraiment comprendre ce qui lui arrive. Un autre de ses potes va se refaire refouler un petit peu du Seabreeze et va rencontrer une espèce de clochard qui vit à l'extérieur et qui va commencer à lui raconter sa life, life de déchéance sans son épouse, enfin tout un tas de choses un petit peu barrées. Et puis le troisième larron va se retrouver dans le giron du patron du Seabreeze qui va l'alcooliser, peut-être aussi l'intoxiquer avec certaines substances illicites, et qui lui dit: écoute mon gars, toi t'as du talent, tu vas pouvoir faire de grandes choses, viens, c'est moi qui gère. Et le petit jeune, bah, il a envie de faire bonne figure, mais très vite le taux d'alcoolémie fait qu'il n'est plus capable de grand chose. Et puis on a sorti un petit peu de nulle part, après que l'histoire se soit bien installée, un groupe de scouts qui semble perdu au milieu du désert et qui va finir par tomber sur les personnages du Seabreeze pour des choses, pour un dénouement, on va dire, franchement inattendu, puisque déjà on s'attend pas à voir ces scouts là et puis on s'attend pas à voir tous ces personnages se télescoper. Là où c'est intéressant, c'est que chaque fois ce sont des parcours initiatiques d'un jeune qui va évoluer dans le cadre des deux copains de Liam avec des adultes qui ont eu des vécus très différents, et puis dans le cadre de Liam, lui c'est une espèce d'épanouissement et d'ouverture à une sorte de sexualité et qui est un peu barré, et c'est vraiment prenant. Au départ on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de lire, c'est quoi cette fête, c'est quoi ce truc, et on s'attache au personnage, à leur développement, on s'attache à cette atmosphère surréelle qui se déroule sur quelques heures en fait, et qui part en vrille d'une manière assez assez impressionnante, et c'est un bon morceau à lire. C'est vraiment intéressant. Je vous gâche pas le dénouement, puisque tout ne va pas finir bien pour tout le monde, mais n'hésitez pas à le découvrir par vous-même. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Moi, j'en pense que du coup, je vois très bien de quel genre de soirée il peut s'agir. Des soirées comme ça où on a l'impression que ça se passe dans un autre temps, dans un autre espace, et ça se passe que sur quelques heures. Et pourtant, il se passe mille et une choses, et l'ambiance est tout à fait, je dirais, spatiale.
Surréaliste quasiment.
Et pourquoi pas? Après, de ce que tu m'en dis, là, il y a pas mal de choses qui se mélangent, des scouts, une fête, le côté fleur bleue avec une petite fleur trop naïf qui finit sur un épanouissement sexuel. Quoi? Il y a l'air d'avoir mille et un trucs dans ta BD.
Mais si ça a l'air brouillon, c'est normal, hein, c'est que ça l'est. Hein. On a vraiment l'impression que tout se passe sans... comment dire? Sans bon sens en fait. Mm-hmm. C'est n'importe qui sait que quand tu vas en boîte, si le premier mec venu te met la main sur l'épaule et commence à te servir un verre, ben refuse. Et ben là non. Si tu es en train de discuter avec une jeune fille et qu'elle commence à se mettre à poil et à courir nue dans la forêt, faut pas rester non plus.
Enfin, pareil pour le mec qui commence à s'apitoyer sur son sort et qui commence à banner. Vite, fuyez.
Mais c'est ça, il y a trop de choses qui sont complètement hallucinante, et mais c'est hyper prenant en fait comme album, et allez-y, ça vaut vraiment le coup. Je redonne les références: c'est Crépuscule Velvet, c'est de Vit Moretta, Vit avec 2 T, VITT, je connaissais pas ce prénom, c'est très joli, et c'est aux éditions Sarbacane, et pour vous achever, il y a un gobelet avec des glaçons et un liquide alcoolisé sur la tranche à consommer bien entendu avec modération. À toi?
Oui, à moi.
À toi mon cher.
Alors je vais vous parler de la dernière lecture en date.
T'as vu ton jingle ou pas?
Oh non, pas utile. En fait, il me fait un petit peu rougir de honte.
D'accord, je te mets le bat interlude alors.
Hein? C'est génial.
Eh ouais.
Donc, je vais vous parler de ma dernière lecture en date, Far Away Paladin. Tu vois ce que c'est?
Qu'est-ce que ça peut un paladin?
Oui.
Un paladin, c'est un type. Étant rôliste, moi j'ai une blague qui fonctionne très très bien. C'est qu'est-ce qui est tout rouge en armure d'acier et qui transpire de l'eau bénite? C'est un paladin dans le désert. Voilà, je suis désolé, j'ai fait une blague de rôliste en direct à la radio, je promets que je ne la ferai pas.
Eh bien très très bien, puisque du coup, Far Away Paladin, on parle de William, qui est un jeune homme fraîchement réincarné dans un autre corps, dans un autre monde, encore, oui, c'est très à la mode décidément. Donc William, qui est fraîchement réincarné dans un univers médiéval fantastique où il va être entouré de trois personnages plus hauts en couleur les uns que les autres. Il s'agit donc de ses nouveaux parents, un squelette, un magicien et une momie, respectivement Blood, Gas et Marie. Donc, notre jeune William étant fraîchement réincarné, il s'agit donc d'un bébé. Il a sa conscience et ses souvenirs de sa vie passée, mais l'incapacité de se mouvoir et de parler.
C'est ballot.
Donc, il veut, bah oui,
c'est ballot.
Donc, on nous met un petit peu dans la peau de qu'est-ce que nous, on aurait pu voir en étant bébé. C'est-à-dire qu'il va découvrir ses nouveaux parents avec une conscience d'adulte. Donc, c'est un petit peu étrange, mais rigolo. Donc il va avoir le premier contact avec Marie, sa maman momie, qui elle va être la bienveillance et la douceur incarnée. On va avoir Gas, le magicien fantôme, qui lui sera plus chargé de sa scolarité, de son éducation. Et Blood, le guerrier squelette, qui lui sera davantage axé sur les arts martiaux, etc.
D'accord, ça fait un mix un petit peu particulier quand même tout ça.
Un petit peu particulier, et encore plus particulier parce qu'en fait sa famille semble lui cacher pas mal de secrets. Elle semble lui cacher pas mal de secrets parce qu'il y a l'organisation de leur quotidien, de leur environnement, etc. Fait qu'il y a pas mal de zones d'ombre en fait qu'il ne connaît pas, malgré toutes les connaissances que Gas lui fait ingurgiter chaque jour.
D'accord.
Donc il va lui aussi leur cacher en fait le fait qu'il ait gardé ses souvenirs de son ancienne vie, tout en essayant de découvrir leurs secrets à eux. Ce qui va lui valoir par exemple ses premières brûlures.
Ah.
Je n'en dis pas plus.
Faut pas laisser les enfants faire toutes leurs expériences tout seuls.
Non, c'est ça. Donc on va avoir en fait une histoire qui va être axée aussi autour d'une magie bien particulière, une magie en fait qui se prononce, une magie qui vient par les mots. C'est-à-dire que la magie que va lui enseigner son parent fantôme à William, c'est une magie en fait qui se réalise en fait en prononçant des mots, les mots du créateur d'après l'histoire, et sur une intonation bien particulière, ce qui permet de faire apparaître de la magie, des sorts.
Ok.
Donc William va être élevé par ses trois mentors et tout en essayant de percer les mystères de sa nouvelle existence, tout en essayant d'en jouir pleinement, puisque la plupart du temps William en fait va avoir des pentes d'introspection où il va se souvenir un petit peu de sa vie intérieure, ou du moins de l'amertume qu'elle lui inspire, pour en fait tout simplement nous enjoindre à profiter du moment présent et de la nouvelle chance qui lui est offerte.
C'est sympa ça.
Oui, c'est à la fois déprimant et sympa.
Ouais, mais
donc on parle de ce sujet-là et pour moi en fait j'y ai vu aussi la possibilité en fait de parler d'alter-parentalité. Je fais des guillemets avec les mains.
Ouais, et ça parce que ça c'est pas très radiophonique de faire des guillemets avec les mains.
C'est pas très radiophonique et en même temps je pense que c'est un sujet dont il faut parler. C'est-à-dire que le mythe de la famille nucléaire, on commence à en avoir assez et c'est bien des fois de présenter en fait des histoires qui nous montrent et pourquoi pas d'autres façons de fonctionner. Puisque du coup,
mais
en général, les livres peuvent être en fait des reflets d'un monde qui peut exister. Donc là, on a trois parents, deux hommes, une femme, et en fait, on nous montre un petit peu comment eux se répartissent les tâches, comment ils s'organisent, quel rôle en fait ils ont auprès de l'enfant, et comment cet enfant William en fait voit ses parents et son éducation, puisqu'il a le recul d'avoir déjà une conscience d'adulte. Donc c'est un sujet moi en tout cas qui m'intéresse au plus haut point et qui du coup m'a bien fait frissonner pendant ce tome. Donc ce que qu'est-ce que je peux rajouter? Je peux rajouter que, en fait, au niveau du dessin,
oui.
Je parlais du dessin. Oui. Au niveau du dessin, les personnages, ils sont super charismatiques. Déjà, rien que sur la couverture, c'est William qu'on a en figurine, puisqu'il est entier dessus, inspire directement la sympathie. On sent qu'on va tout de suite être à fond avec lui, à découvrir tout ce qu'il va découvrir. Et chaque personnage, en fait, transpire son rôle, entre guillemets, et sa personnalité. C'est-à-dire le chara-design, il est complètement, en fait, au service du caractère des personnages. Et même pour Blood, le squelette, on va avoir un dessin et des postures qui vont nous indiquer aussi son état d'esprit, etc. Donc vraiment, on est sur de la communication émotionnelle très grave.
D'accord.
Moi j'aime bien. Et on va pouvoir suivre, en fait, grâce à ça aussi, le lien, en fait, qui s'établit et qui se renforce entre William et ses trois parents. Chacun de ses mentors, en fait, a vraiment son propre rôle. Comme je le disais, on a Blood, le guerrier un peu bourru, Marie qui sera une prêtresse bienveillante, plus du coup le côté émotif, etc. Et du coup le magicien qui sera plus érudit, le côté très scolaire où en fait il lui fait lire énormément de choses, il lui fait faire des contrôles,
plus le côté paternaliste un petit peu.
C'est ça, et puis le côté aussi pour la magie, justement la magie dont on parlait tout à l'heure.
Mm-hmm.
Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, continuer à parler du dessin, tout en parlant d'un truc que j'ai pas encore dit, il s'agit des combats.
Il y a de la baston.
Et oui, parce qu'on parle quand même d'un futur paladin, Faraway Paladin, c'est son nom. Blood va lui inculquer donc une éducation martiale à base de voyages et de combats. Et les combats que j'ai trouvés, en fait, très techniques. On avait parlé, par exemple, dans l'émission de Gamaran ou de Blood and Steel. Mm-hmm. Ici, on va avoir quelque chose de différent tout en étant similaire. C'est-à-dire qu'un...
Oui, non mais oui.
Je vais t'expliquer, tout va bien se passer. On va avoir William qui apprend donc à se battre avec les conseils de son mentor, de son parent. Ce qui donne en fait une dimension très technique et appuyée dans les combats, puisque on a l'impression qu'en fait ce sont des bots qu'on peut reproduire dans la réalité. J'ai bien une impression, ne faites pas ça chez vous.
T'es sûr?
Oui, je suis sûr.
Allez, hop, ah, raté. Bah quoi, on peut faire des...
On peut faire des blagounettes radiophoniques.
Ils le voient pas, les gens, les auditeurs.
Ils le voient pas, mais il a failli me tondre une deuxième fois. Donc le dessin, en fait, au niveau des combats, va être très lisible. Pour le coup, on va vraiment pouvoir suivre l'action pas à pas. J'ai envie de te dire, les mouvements sont plutôt bien détaillés et on suit vraiment le combat au fur et à mesure, aux différentes techniques, aux différentes choses que William pense. Donc les combats sont très détaillés pour le coup.
D'accord.
C'est pas juste deux trois cases de mouvements qui s'enchaînent et boum, c'est terminé. Là, on a un côté un peu plus appuyé, un peu plus long.
Okay.
Donc, tu m'as rappelé un petit peu Goblin Slayer aussi, quelque part.
Ouais. Oui, effectivement, je vois un petit peu le type de combat du coup que ça peut donner.
C'est ça. Donc on va avoir, oui, c'est un peu trois axes comme ça assez importants et assez intéressants à voir dans Faraway Paladin, à savoir le rapport du coup de parentalité entre William et ses trois parents. Mm-hmm. On va avoir le côté secret d'un nouveau monde, etc., etc., à découvrir. Et moi, tu sais que j'adore ça.
Ah ben.
Et enfin, le côté technique des combats et des et épique pour le coup, parce qu'il s'agit d'un univers heroic fantasy. Donc je vais donner les informations. Donc il s'agit de Faraway Paladin aux éditions Komiku et c'est en 4 tomes parus au Japon pour le moment. Pour le moment, on a un tome chez nous et c'est j'ai pas donné le nom de l'auteur.
C'est dommage.
Il s'agit de Mutsumi Okubashi et Kanata Yamanajino.
Eh ben parfait.
Parfait. Allez-y.
Ne soucie. Allez. Allez-y, ça a l'air d'être très très bien. Moi, je plus quoi. On se refait une pause musicale avec un... Bon, c'est pas un paladin, c'est la bande-son du film Chevalier. We Will Rock You.
Bon, c'est très bien quand même.
Voilà, c'est paladin, oui. Chevalier, c'est pas loin. Hein.
Oui.
Allez, on se retrouve dans quelques instants après les légendaires Queen. ça veut bien marcher.
Allez, allez, à du direct, on va dire ça chef.
You big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place.
We will rock you.
Sing it.
We will rock you.
Everybody,
we will rock you. We will rock you.
All right.
www.radio-g.fr.
Toujours sur le 101.5 de Radio G pour parler de bande dessinée, de comics, de manga, un petit peu de tout. C'est toujours un vrai plaisir d'être avec vous, chers auditeurs. J'espère que vous passez un bon moment en notre compagnie. Je vais enchaîner. Alors moi, je ne parle pas de Paladin. J'ai plein d'albums, en fait. Il y en a qui sont compliqués à aborder, je trouve, qui sont compliqués à parler. Puis il y en a qui sont un peu plus simples, un peu plus fun, un peu plus abordables. Je vais vous parler, dans un premier temps, dans cette dernière catégorie, un petit album un petit peu récréatif, à savoir Siku, les marchands de plomb. Alors c'est le tome 2 en fait de la série Siku. C'est aux éditions Dupuis, c'est de Anne-Claire Thibault-Jouvray et de Jérôme Jouvray. Alors si ces noms-là vous parlent, ils font partie des auteurs du clan Jouvray, si je peux me permettre de les appeler ainsi, qui sont à l'origine de la série Lincoln, qui se déroule déjà dans un espèce d'univers Far West. Je sais pas si ça te parle, pas du tout.
Non, du tout. Je suis vraiment désolé. Je suis navré.
Alors là, on est dans un. Alors, c'est à la fois orienté pour les. Ouais, je dirais les ados. J'allais dire les enfants, mais non, c'est pas parce que ça reste un univers de western. Il y a des flingues, il y a quelques gros mots, mais ça reste je sais pas définir en fait le type de personne qui va pouvoir vers qui c'est orienté en fait.
Les adolescents.
Ouais, et encore, ouais, je sais pas. On suit les aventures d'Eliott. Je suis en train de me perdre sur les prénoms de mémoire. Oui, c'est ça. Elliot, qui est le fils du shérif, et le fils du shérif a décidé de le passer, adjoint du shérif. Elliot, il a un petit problème, en fait, il est hyper amoureux de la belle Charlotte. Charlotte, c'est une petite fille qui est assez intelligente et qui a décidé, en fait, de faire des photos avec un appareil photo, mais comme c'est un appareil photo à l'ancienne, vous savez, les fameuses chambres noires sur pied, elle essaye de trouver les bons axes, les bons sujets en fait pour parler. Dans la ville où se déroule l'action, que j'ai perdu le nom de la ville, c'est bien, c'est Patlin City, dans le Massachusetts, vient s'installer un monsieur qui est un marchand d'armes. Il ouvre une armurerie et n'hésitera pas en fait à. Je suis désolé, je bouge sur mon siège et ça me fait parler différemment. À faire tout pour vendre ses armes à, aux gens du patelin. Donc il va se débrouiller pour que les gens aient envie de s'armer. Il va embaucher une jeune fille qui s'appelle Bianca, qui est son fidèle cochon, qui s'appelle Lardon, qui, elle, est une dingo des armes, qui, dès qu'elle peut tirer sur des trucs, elle trouve ça génial. Il va l'embaucher pour faire le ménage dans son magasin. Pendant ce temps-là, elle va chaparder de temps en temps des flingues pour les revendre à ses petits copains sous le manteau. Et on a tout cet environnement western où le flingue est normal, qui sert en fait de sujet sur la prolifération des armes, la façon dont ça devrait être contrôlé aux États-Unis. Je pense que le sujet, il est là principalement. Et puis on a la femme du shérif qui, elle, va avec certaines amies se mettre à militer pour que les armes ne soient plus en circulation libre et que le marchand, l'armurier, rentre chez lui et fiche la paix un petit peu à ce village qui commence à... C'était pas un village, on va dire, pacifique, hein. Ça reste du western avec des duels, hein. Mais là, il y a de plus en plus d'armes qui courent et du coup, ça devient de plus en plus compliqué à gérer.
C'est sympa comme sujet. D'habitude, c'est des choses qui sont réservées à la SF pour essayer de critiquer notre présent. Et là, dans un thème western, ça pourrait être vachement sympa.
Ça fonctionne vraiment très très bien, puisque ça peut se lire indépendamment. Hein. Le sujet, ça peut être à l'instar, attention, je ne critique pas un Lucky Luke, mais juste un western sympathique avec des aventures qui se passent. Mais là, il y a en plus... une seconde lecture qui est un peu plus complète et qui va parler peut-être à ceux qui vont se poser les questions dessus. Un enfant va y voir une aventure avec une amourette, avec c'est un western complet, hein, qui fonctionne vraiment bien. Et un adulte va pouvoir y lire justement cette thématique sur la circulation des armes et les aberrations en fait qu'on peut avoir dessus. Alors c'est pas un spoil de raconter, mais le fameux monsieur, j'ai perdu son nom. Le monsieur Johnson qui vend des armes, en fait, lui, il s'est dit, tiens, on va essayer de vendre des armes en édition limitée pour pouvoir mieux les vendre. Donc du coup, il va chercher des criminels célèbres pour qu'il y ait la signature en fait sur l'arme pour pouvoir dire, ouais, série limitée signée par machin. Sauf que des criminels célèbres, dans ce patelin-là, il y en a pas beaucoup en fait. Mais c'est sympa. On est sur un humour qui est pas c'est pas un humour où tu te claques les cuisses. C'est un humour qui est plus fin, subtil. C'est des petits gags qui vont s'enchaîner, qui fonctionnent bien et c'est vraiment vraiment très sympa. Et en même temps, c'est ça fourmille en fait l'histoire. Là, je vous en ai résumé une partie. C'est la trame principale, mais il y a plein de petites choses qui se passent. Le prisonnier le plus célèbre du coin, il a une petite histoire qui va avec. Il y a des petites blagues. Là, j'en ai une sous les yeux. Le monsieur Johnson, pour amadouer les gamins, il leur distribue des sucres candy en forme de pistolet.
C'est n'importe quoi.
C'est vraiment très très fin, c'est très mignon. On est sur une BD qu'on va peut-être qualifier de BD à gros nez, parce que c'est un peu le trait rond en fait, et plus, on va dire, à orientation des enfants. Mais ça marche vraiment bien. Il y a ces couleurs en fait un peu ternes qui fonctionnent et qui sont les couleurs telles qu'on les imagine sur un western. Ce qui fait que tout ça, ça marche très très bien. Et c'est vraiment, vraiment efficace. On se prend au jeu et on suit les aventures d'Eliott avec un grand plaisir. Et on en redemande. Alors, ça, c'est le tome 2. Je ne connaissais pas du tout Eliott. Et j'avoue que je vais essayer de découvrir ses aventures sur le tome 1. Avec un grand plaisir.
En tout cas, c'est bien tentant, le côté crépusculaire, tout ça, un petit peu cartoon et western barré. C'est pas mal du tout, ouais. Puis en même temps, une petite critique comme ça, enfin, le bonbon en forme de pistolet, moi, ça me rappelle aussi les cigarettes en chocolat qu'on avait quand on était plus jeune, quoi.
C'est une autre des critiques qu'on peut apporter. C'est un autre des sujets en fait qui peut se faire, et ça marche très très bien, et ça peut permettre de parler éventuellement de ça. Alors, c'est un sujet qui est moins courant, on va dire, en France, mais de comprendre avec les enfants pourquoi c'est différent là-bas. Je redonne les références. Sikou, Les Marchands de Plomb, c'est le tome 2, Dan Clair, Thibaut Jouvray et Jérôme Jouvray, aux éditions Dupuis. C'est top, et puis c'est légal, contrairement à un pistolet. Enfin, quoique, tu peux acheter des pistolets de manière légale. Bref. Je vais enchaîner avec un livre qui est un petit peu plus complexe, un petit peu plus sérieux.
La couverture est encore plus belle.
qui est bah, non, tu ne peux pas. C'est pas les mêmes thèmes.
Je la trouve encore plus belle.
Voilà, ça me va plus. Est-ce que tu veux la décrire, cette couverture?
Comment je pourrais la décrire? C'est très lunaire, spatial. Disons qu'il y a l'air d'avoir, il y a une grande, et c'est tout bleu foncé. On voit l'espace, une énorme lune derrière, ce qui semble être l'héroïne, qui a l'air de toucher un sol dans lequel se reflète non pas son reflet à elle, mais une autre personne. Comme si du coup la couverture pouvait être renversée en fait.
C'est exactement ça. Et cette jeune fille s'appelle Olive. L'album s'appelle, c'est le premier album d'une série de 4 qui s'appelle Une lune bleue dans la tête. C'est signé Vero Caso et dessiné par Lucie Mazel. Et tu parlais de cette démarcation, l'héroïne a les mains posées sur un sol. Et c'est là où l'éditeur a fait un très bon boulot, puisqu'on se retrouve avec un vernis sélectif sur le sol qui est une sorte de sol façon glace qui reflète en fait, qui n'est pas un reflet d'elle-même et qui est quelqu'un d'autre. Olive, c'est une jeune fille de 17 ans qui est toujours la tête en l'air, qui est capable de faire complètement abstraction du monde extérieur pour se plonger dans son monde intérieur. Puisqu'Olive, je sais pas si on peut la qualifier de rêveuse, mais elle est capable en fait d'avoir cette espèce de monde intérieur qui est extrêmement développé, avec lequel elle interagit.
Elle a des fonctions cognitives dirigées introverties.
C'est ça. Je vais juste, pendant un instant, si vous pouvez faire le silence chez vous, vous présenter le monde intérieur tel qu'Olive le voit. C'est quelques phrases, ça ne va pas durer très longtemps, mais ça va vous permettre, éventuellement, en fermant les yeux, de peut-être imaginer les images qu'on peut voir sur cette page. Au début, il n'y avait presque rien. Juste la lune bleue comme de l'encre, indéboulonnable de jour comme de nuit. Et un immense lac salé, rose comme un bouquet de bougainvilliers. Et autour du lac, 28 blocs de pierre tendre qui montaient la garde, pressés comme des menhirs. Vous voyez, vous la croyez déjà plus. Il y avait aussi la maison, mais j'appelais ça pas la maison. Au début, ce n'était qu'une bulle d'eau à moitié remplie. Au fil du temps, la bille a grossi et j'ai pu y installer des ponts et des escaliers, des fontaines qui mènent aux différents îlots de la maison, l'observatoire avec une vue imprenable sur le coucher de lune, le laboratoire où je crée tout ce dont j'ai besoin pour me nourrir et me divertir. Et tout en haut, le rêvarium qui se transforme au gré du temps et de mes envies. Et c'est ici que j'ai inventé tous mes lits préférés. Et elle a des lits qui correspondent chacun à une espèce de jeu de mots. Il y a le licorne, le libellule et le liquide qui est capable de se modeler à différentes envies. Eh bien, Olive, elle passe plus de temps en fait à interagir avec son moi intérieur. Il faut savoir qu'elle a aussi dans son moi intérieur une espèce de baleine psychique et un canard de bain géant. Oui, c'est un canard de bain géant qui parle. Et c'est une enfant qui est très solitaire, qui n'interagit que très peu avec son environnement. Elle a un deal avec la directrice de son école. Elle est capable d'avoir une chambre juste pour elle, tant que ses notes sont stabilisées. C'est-à-dire que ses notes étant un petit peu basses, eh bien, on lui adjoint une coloc dans sa chambre. Un peu les chambres à l'américaine, vous savez, où il y a deux élèves par chambre.
Ah oui,
sur les universités,
comme en fait.
C'est ça, comme des internats. Et bien cette jeune fille, Charlie, elle est beaucoup plus extravertie. Elle fait beaucoup de bruit. Dixit Olive, elle fait aussi beaucoup de couleurs dans cette pièce qui était, ma foi, sombre et plutôt, on va dire, fonctionnelle. Jusqu'à ce que Olive subisse une espèce d'intrusion dans son monde intérieur. Une intrusion sous la forme d'une espèce de capsule volante.
Ah oui, on dirait les capsules d'atterrissage des navettes.
Ça y ressemble beaucoup, beaucoup. Et puis l'apparition d'un individu. L'individu qu'on voit sur la couverture, un jeune garçon en combinaison spatiale. Et là, on ne sait pas en fait si c'est quelque chose qu'elle a créé de manière, sans le vouloir, ou si c'est effectivement quelque chose qui intervient de l'extérieur dans son monde à elle. Ce que va dire Olive, c'est que c'est son univers, jamais rien ne l'a surpris dans cet univers-là. Et là, c'est quelque chose qui n'est pas visiblement d'elle-même.
Moi, je crois savoir. La puberté, ma chérie.
Peut-être pas que. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de thématiques. Alors, je veux pas partir en trop grosse analyse, mais Olive, moi, m'a fait penser à une jeune fille un petit peu autiste qui a son monde, a ses habitudes, et quand il y a quelque chose de chamboulé, il n'y a plus rien qui va, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et du coup, c'est des choses qui sont un peu complexes, en fait, dans sa tête. Et dès qu'il y a une perturbation, il n'y a plus rien qui fonctionne.
Je vois. Du coup, moi, j'ai une autre théorie. Moi qui ne l'ai pas lue.
Vas-y.
Ma théorie, ce serait que ça pourrait être super sympa que cette BD puisse montrer aux gens que c'est pas parce que vous avez un enfant introverti et solitaire que c'est forcément un autiste ou un cinglé. Ça pourrait être, c'est le côté sympa.
Ouais.
Bon, je le dis avec mon franc-parler, mais tu vois très bien ce que je veux dire. Et à côté de ça, je me dis, entre l'âge de la jeune fille et le côté intrusif, etc., que ce soit un garçon qui entre dans son monde et pas une fille par rapport à ce qu'on a pu voir du fait qu'elle ait une colocataire dans sa chambre, ça pourrait être tout simplement le côté un petit peu chamboulé, voilà, qu'on vit un petit peu à l'adolescence, à la puberté, lorsque les premiers émois arrivent et où les univers intérieurs ils bougent un petit peu à cause de l'extérieur qui rentre un petit peu plus facilement.
Ça pourrait. Alors je suis pas sûr, parce que du coup effectivement le peu d'interaction qu'Olive peut avoir avec ses congénères et les autres personnages, on va dire, de l'album, ne laisse pas penser en fait à cette intrusion de puberté derrière.
Mais c'est là où c'est fort, parce que des fois il y a des gens, ils n'ont pas besoin de te parler pour te marquer, et des fois tu les croises dans la rue ou tu les entends quelque part derrière toi et tu as du mal à t'en remettre dans ta journée. Il y a des gens comme ça, vous avez un pouvoir fou, les gens.
Là où je pense que ça peut pas coller c'est que pour le lecteur, il faut que ce soit limpide en fait, il faut qu'il y ait quelque chose qui te montre que t'orientes dans cette direction. Si on t'introduit un personnage qui est censé avoir un impact sur la vie de quelqu'un, il faut que tu puisses avoir l'idée et le comprendre derrière. Là, t'as pas ce personnage. Hormis dans l'univers intérieur de Liv, tu ne le vois qu'ailleurs, à un moment très spécifique je vais pas vous spoiler, va falloir le lire quand même.
C'est une série en 4 tomes, ils peuvent le lire.
Ah mais non, mais il faudra le lire, parce que ça se déroule juste à la fin de ce tome-là. Je vais pas vous spoiler, chers amis.
D'où l'intérêt d'avoir
la
suite.
C'est pas l'intérêt. Là où c'est encore... donc déjà, c'est très bien écrit. Vero Caso avait réalisé Betty Boob. Je sais pas si ça vous parle. C'était un album que Tony avait beaucoup aimé, sur une danseuse à qui il manquait un sein. Elle avait travaillé également sur Les Petites Distances. Un album qui fonctionnait très très bien.
Oui, ça je m'en souviens.
Qui était vraiment très très bon. Et puis il y a également Lucie Mazel qui réalise un travail assez phénoménal en termes de dessin. C'est beau, on n'est pas sur des couleurs flashy. Il y a une espèce de mélancolie qui se dégage très très facilement de la partie vie humaine en fait d'Olive. Et puis on a un rendu onirique très fort dès que Olive se retrouve dans son espèce de monde intérieur avec des couleurs, avec ce passage où justement l'intrus arrive dans le monde qui a des couleurs qui sont quasi cataclysmiques qui rend l'album vraiment très prenant, vraiment très parlant.
J'avoue qu'au niveau des couleurs et du dessin, c'est typiquement en fait ce que je me fais comme idée lorsqu'on veut me parler d'un monde onirique dans la tête de quelqu'un, ou dans un monde de rêve, etc. Quand on regarde des films qui peuvent parler de monde intérieur ou de rêve, de pensée, il y a souvent ce côté onirique qui est vachement bien rendu dans ce tome. Moi, ça me fait un petit peu penser aussi, quand t'as fait la description tout à l'heure, genre des lacroses, etc., ça m'a fait penser à Le Roi en jaune, par exemple, où l'univers du Roi en jaune est vraiment aussi très onirique, très fantasmagorique. C'est hyper chouette, c'est vraiment très très beau.
C'est vraiment, alors encore une fois, le but n'est pas de faire de brosser trop dans le sens du poil, on va dire, à quelqu'un qui fait quelque chose qui nous a plu énormément, mais il y a un côté extrêmement reposant. Quand Olive est dans son univers, on a l'impression d'y être avec elle. On a vraiment ce côté très immersif où vraiment on est. Moi, je suis reposé en fait sur des pages comme celle que que je montre à, donc une page où en fait on voit les différents lits que peut utiliser Olive dans son monde. On a vraiment une impression de paix, de sérénité,
ouais.
Qui sont vraiment calmes. Et c'est vraiment, ça marche vraiment très très bien. Un bon coup de cœur sur cet album de ma part en tout cas. Ça pourrait être sympa que tu le lises et que tu nous redonnes ton avis éventuellement.
J'aimerais beaucoup pour le.
Et c'est vraiment, c'est vraiment très très sympa. Je redonne les différentes références. C'est Olive de Véro Caso et dessiné par Lucie Mazel. C'est aux éditions Dupuis. C'est le tome 1 qui s'appelle Une lune bleue dans la tête. Apparemment, c'était issu d'un vieux projet, mais j'ai pas eu le temps de chercher un petit peu plus les détails. Mais vraiment, c'est très très bon et n'hésitez pas à y aller pour vous faire plaisir. Je te le confie et je te laisserai nous en parler un tout petit peu la semaine prochaine.
Ouais, carrément, en plus de ma chronique habituelle.
C'est clair. Si on peut se faire des échanges comme ça avec des retours sur certains albums, ça peut permettre d'avoir de bons échanges.
Ouais, je suis d'accord. En plus, on sait un petit peu plus de quoi l'autre parle et c'est pas mal du tout.
C'est plutôt pas mal, je dirais que même c'est plutôt bonnard.
C'est le partage, les amis. That's
all, folks. Il est 19h56, minutes, pas tout à fait, il reste 3 secondes, mais bientôt 56, ça y est. C'est la fin de la caisse de Seb. Ouais, non, mais
une super horloge, très précise.
Très, très précise. On se retrouve la semaine prochaine. On va laisser place à Ben. Ben, tu nous parles de quoi ce soir?
De live, toujours de live.
J'ai vu que tu avais des gens qui venaient.
Absolument, on reçoit des groupes toutes les deux semaines. Donc là, on reçoit le collectif Envie.
Eh ben, on va voir s'ils vont nous laisser avoir envie ou l'envie d'avoir envie.
Envie de toi. On va...
écoutez, nous on va pas tarder à rendre l'antenne. On se retrouve même heure, même endroit, 19h à 20h tous les lundis pour votre dose quotidienne de lecture. En attendant, n'oubliez pas de lire. Il paraît que ça rend intelligent et on se retrouve la semaine prochaine. Et c'est parti.
Sauvez-vous tous! Nouvelle urgente. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir. I started to believe in all the stories, 'cause I couldn't stand to fight. I was so tired.
Radio G 101.5 FM.